VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Cour pénale internationale de la Haye aux Pays-Bas. Poursuite des déclarations finales au procès du chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, qui doit répondre de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité commis dans la province d'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des chefs d'occupation pour lesquels il a plaidé non coupable en septembre 2015. Le prévenu est accusé notamment d'avoir commandité des meurtres, pillages et viols pendant le conflit dans cette province qui a fait plus de 60 000 morts en 2002 et 2003 selon les ONG. L'ex-rebelle était directement impliqué dans le recrutement de milliers d'enfants qu'il a par la suite utilisé pour assassiner ses ennemis en Ituri, a déclaré la représentante de 298 victimes, Sarah Pellet. Il est prévu que Bosco Ntaganda fasse une déclaration vers la fin des plaidoiries finales, a souligné son avocat, le Canadien Stéphane Bourgon. Les audiences continueront jusqu'à demain jeudi, mais les juges de la CPI pourraient ne pas rendre leur verdict avant des mois, voire des années. Politique en RDC maintenant, inquiétude à l'étranger au sujet des toutes dernières étapes dans le processus électoral en cours dans le pays. L'ONG Human Rights Watch accuse les autorités congolaises d'avoir fermement réprimé l'opposition politique. Et les États-Unis, eux, se disent profondément préoccupés par la décision prise par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de disqualifier certains candidats de l'opposition à la présidentielle pour ce qui apparaît être des raisons politiques. Les 6 candidats recalés ont pour leur part saisi la Cour constitutionnelle. Irénée Armand-Nougbo.
Marie-Josée Ifokoumpouta a déposé son recours contre son défaut de nationalité congolaise d'origine invoqué par la CENI. L'ex-vice-gouverneur a répété qu'elle avait retrouvé sa nationalité congolaise d'origine en 2011 après avoir eu la nationalité canadienne. Pour sa part, Jean-Claude Mokangolo Mpati affirme avoir été écarté car la CENI n'arrivait pas à récupérer sa caution de 100 000 dollars auprès de la Direction générale des recettes, brandissant le récépissé de son virement bancaire. Quant à Jean-Pierre Bemba, écarté en raison de sa condamnation pour subornation de témoins devant la Cour pénale internationale, ses proches estiment que le Code pénal congolais établit une distinction entre la corruption motif d'invalidation et la subornation. La Cour constitutionnelle doit désormais délibérer et renvoyer ses décisions à la CENI, qui annoncera la liste définitive des candidats le 19 septembre, à 3 mois des élections prévues le 23 décembre.
Au Kenya, 5 militaires kenyans tués ce mercredi par l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur convoi dans le comté de Lamu, proche de la frontière de la Somalie. Les islamistes somaliens Shebab ont par le passé revendiqué la plupart des attaques de ce type qui ont coûté la vie à des dizaines de policiers et soldats kenyans. Et toujours au Kenya, la vice-présidente de la Cour suprême a été arrêtée hier. Philomena Mwilu est soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Elle faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta l'année dernière. Une décision historique qui a provoqué la tenue d'une deuxième présidentielle en octobre 2017. Jean-Roger Bion.
Le directeur des poursuites, Nourdine Hadji, a assuré mardi détenir la preuve que Mme Mwilu avait profité de sa fonction pour un enrichissement personnel et accepté de l'argent dans des circonstances douteuses. Elle est également accusée de ne pas avoir payé certains impôts. À la question de savoir si les poursuites contre Mme Mwilu étaient liées à la menace proférée en 2017 par M. Kenyatta de s'occuper de la magistrature, M. Hadji a assuré et travaillé en toute indépendance. « Nous sommes une institution indépendante et nous ne sommes dirigés par personne », a-t-il affirmé. Philomena Mwilu a toutefois été libérée dans la soirée sous caution de 42 000 euros. Son avocat principal, le sénateur d'opposition James Orengo, qui est également celui qui avait plaidé en août 2017 pour l'invalidation de la réélection de M. Kenyatta, a indiqué que la vice-présidente de la Cour suprême entendait contester la constitutionnalité des poursuites engagées contre elle. Le président Kenyatta a récemment lancé une guerre contre la corruption dans son pays à l'économie dynamique, mais minée par une culture de pot de vin et de malversation.
Au Comores, le président Azali Assoumani a nommé un nouveau gouvernement un mois après la victoire du oui à un référendum constitutionnel très contesté qui doit lui permettre de prolonger son règne à la tête de l'archipel. Sa nouvelle équipe compte 12 ministres et 3 secrétaires d'État, seul départ manquant, celui du vice-président Jafar Saïd Ahmed, dont le poste a été supprimé par la réforme constitutionnelle. Il s'était publiquement opposé au référendum.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, 3 mois après la présidentielle, les électeurs retourneront aux urnes les 28 octobre et 18 novembre pour des législatives. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
La bataille pour le renouvellement des 147 sièges de l'Assemblée nationale du Mali est lancée. Le collège électoral est convoqué pour le dimanche 28 octobre 2018 sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres tenu ce mardi 28 août 2018, présidé par le Premier ministre Soumerou Boué-Maïga. Pour les législatives de 2018, la campagne électorale à l'occasion du premier tour sera ouverte le samedi 6 octobre à 0h. Elle sera close le vendredi 26 octobre à minuit. Un second tour aura lieu le dimanche 18 novembre 2018 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'aurait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Pour ce qui est de la campagne à l'occasion du deuxième tour, elle sera ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour et close le 16 novembre 2018 à minuit.
Afrique de l'Ouest toujours, les attaques terroristes continuent au Burkina Faso. À preuve, au moins 7 membres des forces de sécurité y ont été tués par l'explosion d'un engin artisanal dans la nuit de lundi à mardi, 15 jours après la mort de 6 autres personnes dans des circonstances similaires dans la même région de l'est du pays. Jacob Yarabatiola est expert en terrorisme à Ouagadougou. On l'écoute.
L'intensité, la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'Est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante. Tout ce qu'on observe actuellement nous laisse croire que l'autorité est prise de court. Parce que quand vous analysez un peu comment les choses se passent, les terroristes préparent en amont toute l'attaque. Mais quand il s'agit donc de riposter, il me semble que les autorités ne prennent pas aussi toutes les mesures. Je pense que ce sont les actions conjuguées de l'État par rapport à la zone donc du Sahel qui ont découragé justement les groupes qui sont là-bas. Et peut-être voir les liens entre donc les groupes au nord du pays et les groupes à l'est du pays. Et c'est à ce projet commun donc de ces terroristes auxquels il faut s'attaquer.
Jacob Yarabatiola au micro de Bagassi Koura. Inondation au Niger, au moins 36 morts. Tel est le bilan de ces inondations qui frappent le pays depuis le début de la saison des pluies en juin. C'est le nord désertique qui a le plus touché, Claire Morin-Gibault.
Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, ce sont plus de 130 000 personnes qui sont sinistrées à la date du 27 août. Les eaux ont également détruit plus de 7 000 habitations, des milliers d'hectares de cultures et plus de 31 000 têtes de bétail ont été décimées, toujours selon les chiffres de l'OCHA. Agadez, la grande ville du Nord, affiche le plus lourd bilan avec près de 61 000 sinistrés, soit près de la moitié des habitants. Maradi, Zinder et Diffa ont également été touchés, mais dans une moindre mesure. En revanche, la capitale Niamey a été épargnée alors que les intempéries y avaient tué une vingtaine de personnes en 2017. La construction de digues aurait mis des milliers de riverains à l'abri des crues meurtrières du fleuve Niger.
La première ministre britannique Theresa May poursuit sa tournée en Afrique. Elle a annoncé ce mercredi l'ouverture prochaine de 2 ambassades de la Grande-Bretagne sur le continent africain, l'une au Tchad et l'autre au Niger. Objectif, dit-elle, combattre l'instabilité dans l'une des régions les plus fragiles d'Afrique. Madame May compte également renforcer les effectifs de l'ambassade britannique au Mali. Au programme de la première ministre aujourd'hui, une escale au Nigeria après avoir visité l'Afrique du Sud hier. Et pour terminer, actualité ici aux États-Unis, les négociateurs canadiens et américains doivent se pencher aujourd'hui sur les détails des enjeux qui bloquent la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Hier, le premier ministre canadien Justin Trudeau a averti qu'il ne signerait pas un accord avec les États-Unis et le Mexique, si cet accord n'est pas bon pour le Canada. Le leader canadien a envoyé sa ministre des Affaires étrangères à Washington pour négocier une version réformée de l'ALENA. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.